Il y a tant de questions auxquelles je ne peux pas répondre. Tant de choses qui m'indignent ou me bouleversent. Qu'au lieu d'en faire une impuissance, j'ai choisi d'en faire un voyage. Une déambulation. Depuis 5 ans, je fais le tour de la zone intangible où vivent les Taromenane. Les derniers chasseurs-cueilleurs de l'Amazonie équatorienne, dans le parc du Yasuni. Je marche sur les traces d'une petite fille, Taona, nomade Taromenane, rescapée d'un massacre, dont j'ai aperçu la photo dans le bureau d'une fondation. L'existence de cet enfant et de son peuple réveille une autre façon d'être au monde. Elle ouvre l'espace d'un vis-à-vis qu'il me semble impératif, aujourd'hui précisément, de partir explorer.
Anne Cibran, Le Cercle Sauvage. Voyage en Amazonie équatorienne. Dixième et dernier épisode. Toutes ces lucioles dans la forêt.
Comment sort-on d'un voyage où l'on est entré par effraction, dans un élan amoureux? Je guette parfois le signe, ignorant que la scène du drame est déjà dressée. Parfois, le voyage en sait plus que nous, qui nous pousse, nous exhorte, et l'on comprend après. Pour l'instant, je m'apprête à repartir rejoindre l'AIP, mon guide, pour descendre dans les villages au bord de la zone intangible, le long du Chiripuno. Le matin de mon départ, une amie m'a appelé. Elle ne voulait pas que je passe par le fleuve. Il y avait eu des problèmes. L'endroit, selon elle, était devenu dangereux. Afin de la rassurer, je lui ai promis d'appeler un ethnologue, spécialiste de la région.
Vous ne saviez pas? Un homme a été tué le mois dernier. Son corps a été trouvé percé de lances sur les rives du Chiripuno. Les nomades lui avaient tendu une embuscade. Sa femme a été blessée aussi, mais bon, elle a survécu.
Pourquoi les nomades ont-ils attaqué?
La pression est devenue trop forte dans la zone, avec le bruit des pétroliers, les survols d'avions, c'est... Vous comprenez, ils se sentent menacés. Leur mode de vie est bouleversé.
Pour terrible qu'il fût, le drame restait lointain. Aucune interférence encore sur la suite du voyage, mon sentiment de la forêt. Tant que j'ignorais l'identité de l'homme assassiné, quelque chose tenait en équilibre sur cette lisière entre l'intact et le chaos. Puis j'ai appris que c'était l'AIP, mon guide, qui était mort. Et tout a basculé. En un instant, la forêt a changé de visage pour devenir cette jungle sournoise et violente où l'ami gisait, vidé de son sang, piqué dans la boue. La menace que j'avais su tenir à distance triomphait. Je voyais le pétrole partout. Comble de tout, comprendre que j'aurais pu être tué, moi aussi, par ceux-mêmes dont la seule existence m'inspire depuis des mois. L'assassinat de l'AIP remettait tout en question, y compris l'acte d'écrire. Un vertige si puissant que je bouclais aussitôt mes bagages pour m'enfuir à Iquitos. J'avais le projet depuis longtemps. Aller visiter cette mégapole perdue au milieu de la jungle péruvienne sans la moindre route d'accès. Mais pourquoi maintenant, après la mort de l'AIP? Dans le trouble où je me trouvais, l'idée avait au moins le mérite de me mettre en mouvement. J'avais écrit à Jacques, un ami qui habite dans la région. Connaissait-il dans la ville des défenseurs de la forêt? En regardant la carte, je m'aperçus que la superficie de l'agglomération d'Iquitos correspondait à celle de la zone intangible. Je courais m'enfouir dans l'exact opposé. Au lieu d'un territoire vierge mordu à ses frontières par le pétrole, une mégapole polluée par les fumées d'essence et entourée par la forêt. 2 jours avant mon départ, je reçus une liste de noms. Des résistants dans la débâcle. Des hommes, du moins, que la déforestation n'avait pas arrêtés. Pendant les 10 jours que je restais à Iquitos, s'instaura un curieux rituel qui consistait à aller rencontrer les amis de Jacques jusqu'au milieu de l'après-midi pour descendre au crépuscule dans le bidonville de Belém, aux lisières de la ville. Le chagrin a ses prédilections. Chaque matin, donc, Je me levai pour 2-3 noms sur la liste. Des défenseurs de la forêt qu'il me fallait trouver dans cette jungle de 600 000 habitants. Pour m'aider, j'avais Greyfus, qui conduisait un genre de rickshaw à trois roues et connaissait la ville mieux que personne, ayant fait toutes sortes de métiers. Sur un panneau publicitaire, au bord de la route, on pouvait lire ce jour-là « Nuevo, un ciment aussi fort que notre forêt ».
Luis Multicon. Je pense que c'est là.
Une petite maison aux murs verts dans une ruelle défoncée. Chemise à carreaux, le cheveu coiffé au peigne et à l'eau, Luis est guérisseur. Nous remontons derrière lui un long couloir bordé de lits jusqu'à quelques chaises en plastique.
Moi qui ai toujours soigné les hommes, j'ai senti que le temps était venu de soigner les arbres aussi.
Et comment tu t'y prends?
Tout a une psychologie, mamita. La plante a la même psychologie qu'une personne et tous les êtres vivants ont besoin d'attention. Si la plante se sent aimée, elle pousse bien. Nos forêts sont malades de brutalité et d'ignorance. Ceux qui coupent les arbres ont oublié qu'ils étaient vivants.
Guidé par les esprits de la forêt, Luis a inventé un remède qui redynamise les terres déboisées ou malmenées. Cette potion magique, le biol, obtenue en distillant les déchets, est maintenant utilisée sur plusieurs centaines d'hectares aux environs d'Iquitos. L'évocation de cette forêt naissante est si forte qu'elle m'accompagnera toute la journée dans la ville, comme une bulle de chlorophylle au milieu des camions. Il y a l'Iquitos colonial, ses façades fissurées, reprises de mousse et de fougères, plantées devant la jungle avec leurs lustres éteints. Et il y a Belém, ce bidonville gagné sur le fleuve Amazon. Je m'y rends chaque soir. Accompagné de Greyfus, je descends jusqu'à cette fange où la ville n'existe presque plus. Bâtie sur des berges inondables, Belém consiste en une forêt de troncs noirs où un peuple s'est perché. Comme on est en saison sèche, l'Amazone fait une dérogation, nous autorisant à marcher pour quelques semaines sur la vase craquelée, entre ces arbres nus qui portent à bout de bras des taudis aux toits rouillés, grouillant d'enfants et de femmes. L'équivalent d'un deuxième étage où l'on accède par des échelles partiellement édentées. Levant la tête, on voit les pieds balancés dans le vide, les écheveaux de fils électriques, de cordes à linge, les cuisines de pontons. Et la pauvreté paraît si singulière, hissée là-haut, qu'on la trouverait pittoresque sans les remugles de ses latrines dressées entre deux bâches, ses monticules de pourrissement, ses bricolages de miséreux étayés de brindilles. On s'y promène pieds nus, avec parfois le cartable sur le dos, parmi les jeux de ballons, les étals de carton, dressés pour une poignée de bonbons, ou ces bidons remplis de braise où l'on retourne une viande passée. Il faut voir comme on balaie, sur la boue sèche entre les troncs, comme ce peuple juché sur ses béquilles s'applique à suivre comme ailleurs le déroulement de la journée. Ceux qui vivent là sont partis des forêts, échappés de jungles silencieuses, de mémoires éteintes, et qui n'en finissent pas, prenant la barque, grimpant l'échelle, de s'échouer encore. À la nuit tombée, au pied des baraques éteintes, la jungle persiste encore dans les poches d'obscurité. Lucioles, buissons grouillants d'insectes.
Il est tard, on y va?
Quand je suis arrivée à Iquitos, il y a 3 jours, la patronne de l'hôtel, apprenant que j'étais française, m'a tendu un livre en disant « Ça, c'est à vous ». Comme si tous les Français étaient de la même famille, qu'un de mes cousins l'avait oublié là. C'était un livre d'Etil Soum, « Une vie bouleversée ». J'avais entendu parler de ce texte, mais je ne l'avais jamais lu. Je savais que c'était le témoignage d'une jeune femme juive s'acharnant en 1943 à guetter la beauté dans le camp où elle était internée. Ouvrant une page au hasard, j'ai lu « Donne-moi chaque jour une petite ligne de poésie, mon Dieu. Et si jamais je suis empêchée de la noter, n'ayant ni papier ni lumière, je la murmurerai le soir à ton vaste ciel. Mais envoie-moi de temps en temps une petite ligne de poésie. » Et le livre a gagné ma chambre. Je retrouve Etty chaque soir, Après avoir parlé avec les hommes, parcouru la forêt des naufragés, elle m'attend. J'avais presque coché tous les noms de la liste quand je suis repartie. Obscurément, je sentais que j'avais trouvé ce que j'étais venue chercher. J'allais pouvoir reprendre le cercle sauvage, terminer mon voyage. Ces écologistes, professeurs ou guérisseurs faisaient simplement ce qu'ils avaient à faire, sans se laisser fasciner par le désordre ambiant. Je me souviens surtout d'Angel, le leader indigène d'une communauté de Matsès à la frontière brésilienne. Fils d'un chasseur-cueilleur, il termine une licence de littérature à l'université d'Iquitos. En deux générations, aidés par une ONG, les Matsès sont parvenus à apprendre comment récupérer leur territoire, obtenir un titre de propriété et organiser librement la vie de la communauté.
Je m'appelle Angel Waki de Numaï.
Il s'affirme avec tous ses noms. Tout est accepté, digéré. Le passé, le présent, la forêt, le baptême.
Comme on s'est sédentarisé et qu'on continuait de chasser, on s'est rendu compte que le gibier se raréfiait. Alors, pendant 5 ans, on a cessé de manger de la viande. On avait creusé des mares pour élever des poissons. Et les singes sont revenus.
La vie est belle et pleine de sens dans son absurdité, me dit Etil Soum à mon retour à l'hôtel. Je l'ai surnommée la Luciole pour ce don qu'elle a de produire une lumière en même temps qu'elle avance dans la nuit. En partant, je laisse le livre à la réception pour le prochain français. Il restait un endroit encore au bord de la zone intangible où je n'étais jamais allée, le village de Temano, sur les rives du Chiripuno. C'est là que vivait Taona, la petite nomade survivante du massacre de mars 2013. En rentrant du Pérou, je rencontre à Quito le chef de la communauté. Humble et déterminé, il est venu dénoncer la construction d'une route en bordure de la zone intangible. Après la conférence, nous discutons et il m'invite à Temano. En quelques jours, tout s'organise. Comme l'accès par le fleuve reste dangereux, je m'y rendrai en avion. Je n'ai pas l'espoir d'approcher Taona en me rendant à Temano, car on m'a dit qu'elle vivait chez une ancienne qui ne la laissait pas aller avec les étrangers. Cela me convient. Être au plus près sans la voir, l'approcher sans la toucher. L'arrivée de l'avion a attiré tout le village. Couchés à l'ombre des ailes, les enfants se dressent soudain quand l'avion s'élance pour repartir. Il court derrière lui les bras grands ouverts. D'un coup d'épaule, d'un cri de gorge, il semble décoller un instant avant de se laisser retomber dans l'herbe en riant. On a tous la tête levée, puis c'est comme si l'avion n'avait jamais été là. Tout le monde s'est remis à parler, à reprendre le geste au fuseau, chasser les mouches, bercer le bébé tenu roulé sur la hanche. Je ramasse mon sac, marche avec le groupe qui m'emmène dans la maison tressée de palmes, à l'ombre. On me montre un hamac, je m'assois. Les autres hamacs sont occupés par des anciens. Les adultes sont assis autour de la grande table sur les bancs. Derrière moi, j'entends chuchoter les enfants, captivés par mes cheveux que quelques audacieux tapotent ou tirent entre deux doigts. Une fillette est venue s'asseoir dans le hamac à mes côtés. Couchée contre moi, elle prend ma main, applique sa paume contre la mienne, compare la longueur de nos doigts en souriant. Je remarque ses oreilles, petites, singulières. Ce regard surtout qui ne quitte pas le mien, tendre et léger. Puis, comme elle tire sur la cordelette à mon cou, une femme lui dit doucement quelque chose en Waorani, où j'entends surtout « Taona, Taona » répété plusieurs fois. Et je comprends alors que je suis à côté de la petite Taromenane.
Tung sa chaman dami Urmamungami rorauni nyuka gayari manaruna varmi chanilya indisi kwangiju varmi.
Et maintenant que tu es là, Taona, je ne trouve plus rien à te dire. De ces mots, du moins, qui nous priveraient de l'instant partagé pour remonter le temps, réveiller les morts. D'abord, je ressens une gêne à savoir tant de choses sur toi, sans que tu puisses le soupçonner. Comme s'il y avait entre nous, à l'heure de la rencontre, l'espace d'un secret. Mais cela même se dissipera, dans la simplicité de ces moments, à partager les promenades, les repas, les heures fraîches près du fleuve, à surveiller la baignade des petits. Comme si tout ce temps à penser à toi, à prendre la forêt où tu vis et l'histoire de ton peuple, avait creusé une forme que tu viens habiter soudain. Je m'étonne de n'éprouver aucune surprise, seulement la gratitude que cela nous soit donné à vivre. Et chaque fois que tu m'appelles, touche mon épaule, viens près de moi, cette forte émotion. Pas besoin de mots non plus pour que je sache que tu vas bien. Tu aimes la vieille mère qui t'a recueillie, la femme nue au fuseau qui file le coton sauvage et chante encore, comme le faisait ta mère pour traverser la nuit. Tu aimes l'école, parle déjà l'espagnol couramment. Ton agilité fait de toi la meneuse de tous les jeux, plus endurante qu'aucune fillette de ton âge pour travailler les champs, porter des choses lourdes, plus attentif qu'aucun homme à la trace imprimée sous la feuille, l'art de flairer l'approche d'une bête, un changement de temps. Plus proche encore de la forêt que quiconque dans ce village, si traditionnel pourtant. Ce qui crée autour de toi un surcroît d'attention, de considération. J'ai rapporté d'Iquitos une phrase des Tilsum mise en exergue sur mon carnet. Je me sens responsable du sentiment grand et beau que la vie m'inspire, et j'ai le devoir d'essayer de le transporter intact à travers cette époque pour atteindre des jours meilleurs. Cette responsabilité est une liberté féroce, une insoumission au désastre, aux prédictions désespérées. Comment traverser de tels contrastes en gardant le verbe intact? Comment protéger ce qui en nous reçoit la beauté, la perçoit? Je l'ignore. Mais une chose est sûre, Taona a su transporter d'un monde à l'autre, par-delà tout ce qui lui est arrivé, une force, une joie qui contamine tout le monde ici. Elle l'a fait sans calcul, avec la grâce des enfants. Ils ont allumé le feu en arrachant des bouts du toit, des fragments de palmes sèches qu'ils froissent entre leurs mains et s'amusant à se lancer dans l'indifférence des adultes des boules de coton enflammées, marchent sur les braises en riant. Ils jouent à supporter la douleur, traverser la peur, devenir des guerriers.
Les enfants, que dit le sanglier sauvage ? Et le toucan ? Et le singe hurleur ?
Ici, les hommes parlent encore à la perfection la langue des bêtes. Récemment sédentarisé, le peuple de Temano se tient en équilibre entre deux mondes. Les jeunes écoutent avec respect la parole des anciens. Pas d'électricité, peu d'influence de la ville trop lointaine. Une école mais pas d'église, même si le prêtre vient en visite parfois. Il n'y a pas de communauté idéale, et la vie à Temano a sans doute ses défauts. Les Waorani de Temano ont en tout cas conscience des méfaits potentiels de certains aspects de notre civilisation. Soutenus par une avocate, ils ont appris à communiquer et surveillent les frontières de leur territoire contre les incursions des pétroliers et des trafiquants de bois. Mais je crois aussi que la cohésion et l'authenticité de la communauté tient surtout à la présence de son chaman, Eritem, un homme charismatique et visionnaire. La justesse de ses prédictions est proverbiale dans la région.
C'est par là.
La nuit vient de tomber. Avec Taona et l'institutrice du village, je marche vers la maison d'Eritem. Allongé dans son hamac, les yeux cachés sous l'avant-bras, le vieil homme tremble.
C'est parce qu'il reçoit l'esprit du jaguar. C'est très fatigant pour lui. Chaque soir, l'esprit rentre dans son corps et le possède pour l'amener survoler la forêt. Mets-toi là, près de moi. Je te traduirai à l'oreille. Il va chanter ce qu'il voit. Les messages des esprits.
Le village est accroupi autour de lui, attentif à ses moindres mots. Un petit feu a été allumé près du vieil homme que la transe fait frissonner. Autour de nous, la nuit est dense. On sent couler entre les ombres quelque chose de mystérieux et de sacré.
Les chasseurs veulent savoir où sont les troupeaux de sangliers sauvages. Eritem leur décrit une colline couverte de palmiers chanta, à côté d'une lagune. C'est là qu'ils sont. Ils les survolent. Ils les voient. Nombreux, couverts de boue, rouges, et trois d'entre eux, bientôt tués, seront rapportés au village.
Plus de frontières, de territoires, plus de zones intangibles, de blocs de pétroliers. Il n'y a que cette forêt où tout est tissé ensemble dans le champ du guérisseur. Le visible, l'invisible, les bêtes, les esprits et les hommes. Une forêt où tout est possible encore, tant que la vibration la traverse, chargée de force, de poésie, attendant des jours meilleurs.
Les nomades. Il parle maintenant des nomades.
Je regarde Taona. Les yeux mi-clos, la fillette écoute, souffle retenu, lèvres entrouvertes, avec tant d'attention que je comprends qu'elle les retrouve chaque soir, par la magie du vieil homme, sur le fil de son chant.
Tout un clan, dans la maison de palme. Un grand feu est allumé. Ils boivent la bière et dansent. Eritem dit aussi que la chasse a été bonne.
Il voit tout, Eritem, qui nous décrit les lances dressées contre les murs, le petit singe sur l'épaule de l'enfant, deux femmes grosses et cinq ou six jeunes filles agitant leurs chevelures sous le nez des guerriers. Ils sont là, devant nous, portés par la voix du chaman. Taona sourit et tire les jambes. Ce soir encore, dans le champ du vieil homme, les nomades sont heureux.
Le cercle sauvage de Anne Cibran. Dixième et dernier épisode. Avec
Chloé Réjon,
Brontis Jodorowsky,
Miguel Roberto Borras Rueda,
Edouard Wolf,
Paola Córdoba.
Bruitage Bertrand Amiel, conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Nicolas de Pagraff. Assistant à la réalisation, Julie Briand, Vivien Demeyer. Réalisation, Laure Egoroff.